Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement, on continue à parler d'immobilier dans cette émission, c'est un sujet qui vous est cher. Et on va réfléchir à, y a-t-il une manière d'échapper à la crise du logement ? Comme investisseur. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Jonathan Glove, fondateur d'Agusso Capital et aussi d'Aircall, côté tech. Il y a une crise du logement, il n'y a pas assez de logements, les prix montent, mais pourtant, il y a des zones d'investissement potentiel. Vous allez nous parler notamment de para-hôteliers et de co-living. Petit topo, carte blanche à vous Jonathan.
Alors, rapidement, oui, en effet, il y a une crise du logement et on s'enfonce un peu dedans, malheureusement. Et le co-living, on va dire que c'est... Pour ceux qui connaissent pas, c'est la colocation 2.0, peut-être 3.0, je sais pas.
Colocation de luxe surtout, non ?
C'est ça, c'est une colocation un petit peu plus luxe que la colocation d'étudiants qu'on a, je pense, à peu près tous connus quand on était étudiant ou en échange. Et c'est vraiment quelque chose qui se développe dans les grandes villes parce que il y a une demande des gens de vivre dans des beaux appartements et de vivre finalement avec d'autres personnes, surtout quand on n'est pas marié ou pas en couple. Et donc les co-living se développent. Pour la petite histoire, un petit chiffre que j'ai relevé qui est assez intéressant, en 2020 il y avait 2600 lits de co-living en France, donc on parle en lits, on pourrait parler en chambre également. En 2023 c'est 14 300, donc c'est un peu plus de x5 quoi. Donc ça veut dire que vraiment il y a une appétence pour ça et ça plaît. Les personnes qui vivent dans les co-living sont plutôt heureuses. Je crois que c'est 80% des personnes vivant dans un co-living sont contents du co-living dans lequel ils vivent, ce qui est plutôt positif. Maintenant, comme toute bonne affaire, il y a des mauvaises affaires. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans les villes ? Malheureusement, les mairies sont pas contentes. Pourquoi ? Parce que évidemment, qui dit co-living dit que les appartements familiaux qui appartiennent à des propriétaires, des investisseurs comme vous et moi, on achète ces appartements, ces maisons qui sont en général des appartements familiaux ou des maisons familiales, et on va les transformer en co-living. Donc en fait, on va enlever, les investisseurs vont enlever, les mairies considèrent en tout cas que les investisseurs enlèvent du marché des produits familiaux, et donc ça rend l'habitat pour une famille beaucoup plus compliqué. Et en effet, c'est beaucoup plus intéressant pour l'investisseur.
C'est-à-dire que dans un marché de location tendu, on oppose d'un côté un besoin étudiant, si je résume, parce qu'on est plutôt
étudiant ou jeune actif,
jeune professionnel ou étudiant, et en face aussi un besoin de grand appartement pour les familles recomposées
dans une ou les familles tout court,
où il y a les familles sont plus ou moins nombreuses, mais en tout cas voilà, où il y a un besoin d'appartement familial.
C'est ça, les appartements familiaux aujourd'hui c'est une offre qui est très rare. Et d'ailleurs, je me suis amusé, on va en parler juste après, mais je me suis amusé à regarder un petit peu sur Se Loger juste avant de venir, le nombre d'appartements familiaux actuellement à Paris pour des plus de 3 chambres. C'est quelques centaines, c'est très peu.
Car oui, à Paris, 3 chambres, c'est un appartement familial.
Pour les petites familles parisiennes. Non mais en fait, mon point, c'est... Il y a clairement un problème aujourd'hui qui se joue avec toute cette régulation que les mairies essayent de faire et l'encadrement des loyers. Donc il y a plein d'effets pervers. Donc encadrement des loyers, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et c'est normal, ils veulent gagner plus, donc ils créent des co-living et donc ils enlèvent du marché des appartements qui étaient dits familiaux, et les mairies commencent un peu à contre-attaquer,
notamment à Bordeaux. Racontez-nous.
Notamment à Bordeaux où en fait dans certains bâtiments il faut faire des demandes spécifiques. Et l'investisseur en question, qui est un investisseur que je ne citerai pas, qui est spécialisé dans le co-living, n'a pas obtenu son permis de construire modificatif selon la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Donc ça, c'est une première un petit peu, c'est récent, et les mairies vont commencer un petit peu à serrer la vis justement pour empêcher de complètement déserter la location des appartements familiaux, parce qu'en effet, on a besoin aujourd'hui de aussi pouvoir loger les familles et pas que les individus dans des co-living.
Jonathan, vous nous dites que le co-living, c'est devenu une pratique courante. On parle de Paris, on parle de Bordeaux. Est-ce qu'il y a d'autres villes de France très identifiés comme des lieux où le co-living a la cote?
Bien sûr, à Lyon, énormément. La mairie, d'ailleurs, s'en désole un petit peu. À Marseille, qui font aussi la chasse au Airbnb en général. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, on cherche des endroits pour un petit peu éviter l'encadrement des loyers. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours été historiquement contre les encadrements de loyers, parce qu'en fait, on casse le marché, on laisse pas le marché s'autoréguler. Aujourd'hui, si on met des prix, un prix n'importe quoi sur un appartement de 100 mètres carrés, normalement, il va pas se louer, le marché va autoréguler. Et à force de mettre de l'encadrement, les propriétaires, les investisseurs cherchent des alternatives et on crée des effets pervers. Petite autre statistique que j'ai relevée ce matin, je me suis amusé, hein, avant de venir, je voulais t'amener des petites choses croustillantes. Je me suis amusé à regarder dans le 16e et le 8e arrondissement, qui sont des arrondissements de Paris relativement connus pour des appartements familiaux. J'ai regardé un maximum de 5000 euros de loyer et 100 mètres carrés minimum, avec 3 chambres minimum. Donc il y a seulement 56 biens actuellement en location, et 50% de ces biens, tenez-vous bien, sont en bail code civil. Donc ça veut dire en bail moins d'un an. Pourquoi ? Bah, c'est pour pouvoir mettre des loyers plus élevés et pour éviter l'encadrement des loyers. Et moi, je trouve ça triste que du coup on se retrouve en tant que famille à ne pas pouvoir se loger juste parce que on s'est amusé à encadrer dans tous les sens et ça crée ces fameux effets pervers qu'on trouve, mais qui sont pourtant des effets de marché intéressants.
Vous avez relevé ce que fait Bruxelles, qui est confronté au même sujet. Qu'est-ce qu'on fait en Belgique ?
Eh ben, Bruxelles essaye de réguler. Pourtant, la Belgique n'est pas connue à l'origine pour être un pays fort en régulation, et pourtant c'est un petit peu parti dans tous les sens, notamment à Bruxelles. Et donc, la ville a décidé de taxer ce phénomène en taxant à la chambre à hauteur de 1500 euros par an, ce qui correspond à peu près à 127 euros par mois, par chambre en co-living. Donc, ce qui va quand même un petit peu abîmer le business des investisseurs. Mais aujourd'hui, c'est encore une zone grise. Donc, les investisseurs, si vous avez des appartements aujourd'hui de grande taille, en effet, c'est une niche intéressante à explorer, le co-living. Mais attention à la régulation qui risque de nous rattraper un jour, comme sur le Airbnb. Il y a eu l'âge d'or du Airbnb et il est malheureusement terminé.
Voilà, Jonathan Angloff qui sonne la fin de l'âge d'or du co-living. Aujourd'hui, un investissement en co-living, c'est quoi le ticket d'entrée moyen?
Alors, c'est difficile de parler de ticket moyen d'entrée, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un appartement familial. Alors, je prends l'exemple de Paris, je suis un petit peu biaisé, mais on peut regarder n'importe quel appartement familial dans les grandes villes ou même dans des un petit peu plus petites villes. Je prends l'exemple de Paris parce que c'est facile. Un appartement de 120 mètres carrés en encadrement des loyers à Paris va être environ à 4000 euros. Sur la tranche haute d'un encadrement de loyer avec 5 chambres, donc voilà, c'est des petites chambres.
Le loyer sera autour de 4000 euros.
Loyer de 4000 euros. Maintenant, en co-living, ce même investisseur, s'il fait un co-living dans cet appartement, et au lieu de faire 5 chambres, il va faire 4 chambres, il va louer 1500 euros la chambre environ, et il va faire 6000 euros par mois, du coup, au lieu de 4000 euros. Donc c'est quand même presque 50% si on déduit les charges, etc.
Voilà, pas assez de logements, les prix qui montent et cette opposition maintenant qu'on observe sur une typologie particulière de grands appartements familiaux qui peuvent être transformés en co-living. En tant qu'investisseur, est-ce que ça vaut le coup? Jonathan Anglove d'Aguesso Capital vous a apporté un éclairage. Voilà, investir autrement dans l'immobilier, peut-être sur le co-living. Le para-hôtelier, c'est ça, on appelle ça le para-hôtelier?
Oui, on peut parler de para-hôtelier, oui.
Merci beaucoup, Jonathan, à une prochaine pour un décryptage d'une autre tendance immobilier et investissement.